10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour.
Bienvenue dans ce grand rendez-vous. Le terrorisme a frappé jeudi, cette fois dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire au cœur de l'État. 4 policiers sont morts, poignardés sur leur lieu de travail par un homme se réclamant du djihad. Une cérémonie d'hommage d'ailleurs leur sera rendue mardi. C'est le cauchemar pour les forces de sécurité. Un attentat islamiste par un membre des services de renseignement devenu un fou de Dieu sous les yeux de ses collègues de sa hiérarchie qui n'a pas réagi. La question que se posent les Français aujourd'hui est très simple. Comment cette défaillance impressionnante est-elle possible? Comment un radicalisé islamiste pouvait-il travailler dans un service de renseignement? Le Premier ministre apporte ce matin quelques réponses dans l'urgence, dans une grande interview au JDD. Bien entendu, on va y revenir. Mais dans ces circonstances, votre présence au grand rendez-vous revêt une dimension particulière. Vous êtes le candidat de La République En Marche pour les prochaines élections municipales à Paris, mais aussi une figure de la majorité, un député et premier compagnon de la campagne éclair qui a mené Emmanuel Macron au pouvoir. C'est pourquoi, au-delà de votre projet pour la capitale, vous nous direz si Emmanuel Macron a toujours l'énergie pour transformer, au moins réformer un pays toujours éruptif et divisé. Ce sera également l'occasion de mieux vous connaître, Benjamin Griveaux. On connaît déjà quelques aspects saillants et décapants dans votre manière de vous exprimer. Mais enfin, à l'instar du quinquennat, on verra si pour battre Anne Hidalgo en mars, vous avez décidé d'ouvrir et comment votre acte 2 personnel. Toutes ces questions sont posées lors de ce grand rendez-vous avec Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews qui vous pose la première question.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour.
Mickaël en parlait, le Premier ministre annonce donc des mesures ce matin suite à l'attaque de la préfecture de police de Paris. Dans le journal du dimanche, il annonce la saisine de 2 missions pour détecter ces agents qui seraient radicalisés. Est-ce que finalement, ce n'est pas trop peu et surtout trop tard?
D'abord, moi, je veux dire le soutien aux familles et aux collègues des victimes de l'attentat qui s'est déroulé dans l'enceinte de la préfecture de police. C'est une vieille maison, la préfecture de police. Elle a une âme, elle a une histoire particulière et elle a une histoire particulière avec la ville de Paris. Et ce sont des personnels qui, je le dis, depuis 2015, ont été particulièrement mis à l'épreuve suite aux attentats qui ont frappé la capitale et dans l'année qui vient de s'écouler avec les gilets jaunes qui ont mis à rude épreuve pendant de nombreux week-ends nos forces de l'ordre. Il y a un phénomène de radicalisation dans la police. Il y a un rapport parlementaire qui avait été conduit par 2 parlementaires.
On va y revenir.
C'est important. Qui permettait d'abord d'identifier des fonctions publiques, parce qu'il y a la question de la police, mais il y a dans d'autres endroits aussi où on a des phénomènes de radicalisation, qu'on puisse mieux détecter, mieux identifier, et mieux évaluer les risques. Et
comment dans mais justement.
Et dans la mesure où ces risques sont identifiés, où les signaux sont clairement établis, pouvoir mettre en place les mesures qui permettent d'éviter la situation dramatique dans laquelle
vous demandez,
nous sommes
par exemple, Benjamin Griveaux, vous êtes député de Paris, une commission d'enquête parlementaire peut-être pour aller travailler plus vite justement sur ces questions.
Il y a deux missions, il y a 2 inspections qui ont été lancées dans les services d'enseignement, des inspections de nature administrative.
Ça,
il y a, je le dis,
Premier ministre,
le parquet antiterroriste qui s'est saisi du dossier et c'est parfaitement normal. Qu'il y ait une enquête parlementaire ne pose pas de difficulté. Il ne faut pas simplement que une enquête parlementaire devient un tribunal politique. Et c'est ça tout l'enjeu.
Mais vous n'y êtes pas opposé ce matin.
Je dis simplement, c'est à la commission des lois, je dis simplement que ça ne doit pas être un tribunal politique. Et que dans ces circonstances et sur un sujet aussi sensible que celui-là, j'attends de la représentation nationale, à l'Assemblée comme au Sénat d'ailleurs, beaucoup d'unité. Alors, et le sens de l'intérêt général au-delà de la mauvaise polémique politicienne.
Bien sûr, mais au-delà, comme vous dites, de la mauvaise polémique, il y a quand même des questions de fond qui se posent et que tout le monde se pose. Dans l'armée, on le sait, le travail a été fait depuis longtemps, depuis 2015. On sait également qu'au sein du ministère de l'Intérieur, il y a des résistances, des réticences pour reconnaître qu'il y avait des phénomènes de radicalisation. Est-ce que ce n'est pas là cette manifestation de l'état profond qu'avait dénoncé pour d'autres sujets le président de la République? Est-ce qu'il ne faut pas changer justement cet état d'esprit?
Manifestement, le Premier ministre l'exprime ce matin dans son interview sur le fait qu'il faille resserrer les mailles du filet, que manifestement il y a des mécanismes qui n'ont pas été opérants et que en cette matière, il faut toujours mettre en place un tamis plus fin pour repérer les signaux précurseurs, les signes avant-gardistes, pour faire en sorte qu'on puisse éviter à tout prix que des personnels
de la fonction publique, qu'elle soit d'ailleurs dans les forces, vous l'avez dit, de police, oui. Mais aussi dans l'armée, mais aussi à l'hôpital, mais aussi à l'école,
oui,
mais aussi à l'école, qu'on puisse les identifier le plus possible en amont. Est-ce qu'il y a une défaillance ? Manifestement, il y a un comportement qui n'avait pas été détecté.
Mais pourquoi sous la pression, Benjamin Griveaux ? Pourquoi quand les événements arrivent ? Oui. Regardez, en juin dernier, il y a quelques mois, un rapport parlementaire des deux députés, Éric Diard, Éric Pouyat, LR et La République En Marche, ont identifié, dans un travail assez précis, des phénomènes de radicalisation dans le service public, également dans les forces de police. Il n'y a que les journalistes qui l'ont lu ?
Non, des recommandations avaient été faites. Je rappelle aussi que lorsque nous avons voté la loi sur la sécurité, l'immigration et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, à la fin de l'année 2017, que l'opposition et les Républicains n'ont pas voté. Il y avait des éléments dans cette loi qui permettaient aussi de mettre en place des mécanismes de détection plus précis dans la fonction publique. Est-ce que le zéro risque existe ? Je crains que non. Est-ce que nous devons tout faire pour que rapport parlementaire à l'appui, enquête administrative à l'appui, enquête du parquet antiterroriste à l'appui, nous puissions éviter à l'avenir ce qui s'est produit dans les locaux de la préfecture de police ? À l'évidence, oui. Ça doit être fait de manière... Si le Parlement doit s'en saisir pour modifier la loi, il faut le faire. Mais il faut aussi que nous puissions le mettre en œuvre dans nos propres services.
Nicolas Barré.
Mettons les pieds dans le plat. Vous avez été ministre. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a parlé trop vite dans cette histoire ?
Mais il a parlé avec les éléments dont il disposait à ce moment-là.
Oui, mais en fait,
et vous savez, moi, je veux bien qu'on fasse...
Est-ce qu'il n'a pas commis une faute ?
Je vous le dis. Si on fait le procès permanent de la parole, vous n'aurez désormais plus que le silence des politiques. Et donc, moi, j'appelle à un peu... le sens des responsabilités, notamment dans ces moments-là.
Pardon, le questionnement n'est pas le procès, Benjamin Griveaux.
On a cette exigence,
est-ce qu'il est encore crédible aujourd'hui ?
Mais on a des injonctions contradictoires permanentes, c'est-à-dire qu'on est sous la pression des médias, et vous y participez, et des chaînes d'infos en continu, qui vous disent chaque minute, vous tendent un micro et vous demandent une réponse dans l'immédiat. Et en même temps, on doit...
Oui, mais il n'était pas obligé d'écarter la piste à ce moment-là.
On doit la responsabilité, le sérieux de l'enquête... Et c'est ces injonctions contradictoires qu'il appartient à la fois
Griveaux, quand
à
les politiques ne veulent pas répondre, ils savent le faire
simplement.
Aussi. Ils savent le faire quand ils ne veulent pas répondre.
Oui, mais je crois que, justement, quand on est en responsabilité, on se doit de répondre à tout.
Oui, mais...
C'est aussi cela, la démocratie.
Le saillant n'a jamais présenté de difficultés comportementales.
C'est aussi cela, la transparence.
C'est ce qu'a dit Christophe Castaner. Il n'a jamais présenté de difficultés comportementales. Il n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte.
J'entends.
Les faits...
C'était les éléments dont il disposait au moment où il l'a dit. Et moi, je ne suis pas là pour faire le procès de Christophe Castaner. Je vous le dis, je suis là pour faire en sorte que demain, les mécanismes de détection, de prévention et le repérage permettent d'éviter ce carnage. Voilà. C'est ça, la responsabilité
du politique aujourd'hui. Nicolas Barré.
L'imam salafiste marocain que fréquentait l'auteur de cet attentat était très controversé. Il a failli d'ailleurs même être expulsé de France. Est-ce qu'il faut être plus sévère à l'égard de ces imams radicalisés ? Et puis, plus largement, est-ce que vous ne craignez pas, vu un risque d'apparition de listes islamistes aux prochaines municipales ?
Sur la radicalisation des imams, je rappelle qu'à nouveau, dans la loi, avant, vous savez que c'était que simplement lorsque la France était en état d'urgence, que nous pouvions... notamment fermer des lieux de culte dont on considérait qu'ils étaient des lieux de prosélytisme pour des théories, notamment salafistes, islamistes et radicalisées. Ouais. Désormais, c'est dans le droit commun. Nous l'avons inscrit dans la loi sécurité, immigration, lutte contre le terrorisme. Et donc ça, c'est important. Sécurité intérieure, pardon, lutte contre le terrorisme. Ça, c'est important d'utiliser ces moyens de droit-là. Et
mais
moi,
là,
je n'ai aucun état d'âme à ce que lorsqu'un imam qui fait des prêches salafistes est identifié, il puisse être expulsé. Ça ne pose évidemment pas de difficulté.
Mais là, on voit bien que ça
n'a
pas été le cas.
Ça a l'air de poser plus de problèmes à l'administration, quand même.
Écoutez, vous avez aussi des procédures, vous avez des juges. Ce n'est pas le rôle du politique de se substituer à la justice. À nouveau, moi j'ai confiance dans les institutions de mon pays. On a aujourd'hui un arsenal législatif qui est complet sur ces questions-là. Il faut désormais le mettre en œuvre et que la justice puisse prononcer, lorsque c'est le cas et lorsque c'est établi, eh bien un éloignement du territoire pour les imams salafistes.
Nicolas
Barré. Plus largement sur le danger de listes islamistes au municipal, comment est-ce que vous voyez les choses ?
Le respect de la loi, le respect de l'état de droit et rien que cela.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben ça veut dire que si vous avez des candidats qui prônent dans le programme municipal qui est le leur, le fait qu'on ait une part de salafisme ou appliquer la charia sur le territoire de la République, c'est parfaitement illégal et la liste doit être interdite. Voilà.
Benjamin Griveaux, lorsque les caméras s'éteignent, les micros s'éteignent, beaucoup de responsables de sécurité nous confient cette crainte, nous disent effectivement, on craint l'arrivée, la montée de listes salafistes communautaristes dans plusieurs communes de France. Vous l'entendez aussi? Vous partagez cette crainte?
Je l'entends. Et je vais vous dire, même au-delà de cela, il y a, on le sait, en France, il y a des quartiers dans lesquels des associations de quartiers, et souvent avec, comment dire, la bienveillance, ou en tout cas le regard léger de certains élus locaux, eh bien, pratiquent le prosélytisme religieux dans certains quartiers. On dit même qu'ils tiennent certains quartiers. Toute la bataille que nous avons engagée depuis 2 ans, toute cette bataille de reconquête des territoires, les fameux quartiers de reconquête républicaine, c'est remettre des services publics, remettre l'État, remettre la municipalité là où on a été en défaut et ces 15, 20, 30 dernières années.
Daniel
et
Floreau.
C'est ça l'enjeu qui est derrière. C'est comment est-ce que je remets de la puissance publique là où les solidarités religieuses se sont substituées à la solidarité de l'État.
Et
c'est ça l'enjeu.
Et ce discours, justement, est-ce que ce n'est pas au président de la République de le porter? Il a choisi de ne pas évoquer à ce stade encore dans une allocution ces sujets de la laïcité, du vivre ensemble. Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que ce n'est pas un manque surtout?
J'ai le sentiment qu'il les a évoqués à maintes reprises, ces questions de laïcité. Ça lui a d'ailleurs été suffisamment reproché. Je pense à son discours qu'il a donné aux Bernardins, je pense au discours qu'il a donné devant la Fédération du protestantisme français. Et donc, il a à de nombreuses reprises évoqué ces questions-là.
Sans pour autant, pour l'instant, agir en ce sens ou aller plus loin dans.
Mais
parce que Benjamin Griveaux, la question.
Il y a des choses qui ont été. Attendez, juste une chose, oui. Je ne peux pas laisser dire ça. Il y a des choses qui ont été mises en place. Je pense en particulier à ce que Jean-Michel Blanquer a fait avec les unités laïcité dans les écoles, parce que c'est à l'école que ça commence. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de mesurer les effets des politiques qui ont été conduites? Je ne sais pas vous dire
Benjamin
après
Griveaux,
2 années.
Vous faites
ce
de
que
la
je
politique.
Sais, c'est que, juste une chose, je fais de la politique, mais il y a des choses qui ont été mises en place. Ça prend du temps. C'est une bataille culturelle. Nous avons abandonné ce terrain culturel depuis des décennies. Depuis des décennies. Ça ne se règle pas en 2 coups de baguette magique en 2 années. Ça n'est pas vrai.
Benjamin Griveaux, la question
que
se pose des Français.
Ces questions-là prennent du temps. Parce que c'est une bataille culturelle que nous livrons.
Benjamin Griveaux, rapidement, la question que se posent les Français. Combien de temps peuvent-ils encore supporter, effectivement, ces fractures, ces pressions, jusqu'à craquer complètement? Combien de temps?
Mais si je ne vais pas vous donner un horizon de temps. Vous voyez bien, Michael Darmon, que la question que vous me posez, ce sont les questions des fractures françaises qui traversent le pays depuis des décennies. C'est ce qui a été engagé par le président de la République depuis 2 années par sa majorité. Faire ces transformations, remettre les services publics là où ils ont fait défaut, remettre de l'égalité des chances à l'école, faire en sorte qu'il n'y ait pas un gamin de la République qui pense que parce qu'il est né à Trappes ou dans un quartier ou dans telle rue, il n'a pas sa chance demain. C'est ça le combat qu'on mène depuis deux années.
C'est ce qu'on va continuer à évoquer. On va se retrouver très vite au Grand Rendez-vous.
10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Michael Darmon.
Et Benjamin Griveaux, notre invité ce matin. Au programme, les réformes ultra-sensibles qui arrivent dans le dur, les crispations de la société. Nicolas Barré.
Oui, et une mobilisation tout à l'heure devant le Sénat à Paris contre la PMA. Qu'est-ce que vous dites aux manifestants qui vous accusent de vouloir aller encore plus loin avec l'autorisation de la gestation pour autrui, puisque certains des députés de la majorité le souhaitent et vont même voter d'ailleurs?
Je leur dis que la question qui est posée là, dans la révision des lois bioéthiques, est la question de la PMA. Je leur dis que je respecte la liberté de conscience de chacun et que chacun a son intime conviction sur ces questions qui sont des questions qui traversent la société française, qui, je crois, traversent même les sensibilités politiques. Ça relève plus des sensibilités philosophiques ou morales, personnelles. Que je respecte cela, mais que je leur demande une chose, c'est qu'on ne voit pas dans cette manifestation cet après-midi les slogans honteux, qu'on a pu observer lors des manifestations il y a quelques années liées à la question du mariage.
Lesquels?
Les enfants Playmobil, le fait que les enfants, les parents de même sexe seraient de mauvais parents, qu'on aurait demain des enfants sans papa. Ça blesse des enfants, ça blesse des familles. Ça n'est pas acceptable. Je respecte la liberté de chacun, de conscience. Mais je respecte aussi le fait que nous avons en France des familles diverses, et en particulier à Paris. Nous en avons de nombreuses. Et je demande que pour ces enfants, pour ces parents, il y ait le respect aussi de la liberté qui a été la leur de construire ces familles qui sont diverses et qui font aussi bien la richesse de la société française.
Mais d'accord, mais quand vous voyez que certains députés vont plus loin et prônent la GPA, Comment est-ce que vous pouvez expliquer ensuite à ces manifestants que finalement, dans la majorité, il y a des gens qui veulent...
Nicolas Barré, c'est un peu plus compliqué que ça. Prendre pas la GPA, on est sur un sujet qui est la question de l'inscription à l'état civil d'enfants nés sous GPA dans un pays étranger où c'est légalement autorisé. Oui, mais c'est pas faire attention au raccourci, surtout dans ce domaine aussi sensible.
Mais et donc, pour les ce que je dis, le raccourci existe. Et ils
j'entends. Mais le rôle du politique, c'est justement de ne jamais céder au raccourci et de toujours déplier la pensée dans toute sa complexité, en particulier sur ces sujets-là. Et donc, il y a eu une décision importante de la Cour de cassation qui a été rendue vendredi dans un dossier que je connais très bien, parce qu'il se trouve que je connais très bien Sylvie et Dominique Menson depuis de très nombreuses années, qui ont eu des enfants sous GPA à l'étranger, ça fait une vingtaine d'années, et on a pu, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, reconnaître la filiation.
Damien Fleurot.
C'est un cas à part, mais je ne suis pas certain qu'il faille l'inscrire dans la loi.
Vous dites, Benjamin Griveaux, je serai particulièrement vigilant quant au slogan que l'on verra dans cette manif des opposants. Et pour autant, le Premier ministre dit attention à ne pas humilier ceux qui ne sont pas en faveur de ce projet de loi. Comment est-ce que vous conciliez cela dans votre campagne municipale? Parce que ce débat, là, le texte va aller au Sénat ensuite. Il reviendra à l'Assemblée nationale. Cela va marquer la campagne des municipales.
En respectant la liberté de conscience de chacun, où personne n'humilie personne. Nous sommes dans une société démocratique, où le débat est autorisé, où les opinions peuvent s'exprimer. Mais je rappelle que l'homophobie, ça n'est pas une opinion, c'est un délit, et que c'est condamné. Et donc, dans le respect de cette liberté de conscience, je suis certain que personne ne cherchera à humilier personne. Il y aura toujours des ultras. C'est de cela dont il faut se défaire, se départir et respecter, au fond, la conscience de chacun.
Vous trouvez que cette loi est importante? C'est une loi
c'est
qui change la société.
C'est une loi importante. Moi, je me suis battu lorsque j'étais au gouvernement pour qu'on puisse l'inscrire rapidement. Et en même temps, je vais vous dire, beaucoup nous disent, mais vous avez mis 2 ans pour la passer au Conseil des ministres et puis, au fond, arriver au Parlement. Je suis sûr d'une chose. C'est que si nous l'avions fait au bout de 2 mois, je ne suis pas certain que nous aurions eu un débat que je trouve, entre guillemets, plus apaisé que ce qu'il s'est passé lors du mariage. À ce stade. Mais j'ai trouvé que les débats étaient de meilleure qualité et que sans doute parce que on avait débattu avant dans la société, parce que le Conseil national d'éthique s'était prononcé, nous avions collectivement progressé.
L'état de l'opposition n'était pas le même, et notamment de la droite.
Vous la sentez plus faible que...
Moi, je ne lis pas dans le marc de café, mais ce que je sens, c'est qu'il y a une décrispation, y compris des oppositions traditionnelles sur ces questions aussi sensibles par rapport à il y a quelques années encore.
Alors, autre sujet qui crispe, c'est l'immigration. Demain, c'est 3 heures pour convaincre, on pourrait dire. On attend à l'Assemblée donc un débat, un discours d'Édouard Philippe, qui ce matin, d'ailleurs, dans le JDD, dit ne pas être hostile donc aux questions de quotas, à ce principe-là, en disant que ça n'est pas tabou. Au-delà du débat avec la parlementaire, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour appliquer le discours du président de la République?
C'est la ligne de crête qui est si difficile à tenir.
Eh oui, c'est pour ça qu'on pose la question.
Les uns et les autres, de part et d'autre de l'échiquier politique, considéreront pour ceux de gauche que nous sommes d'horribles xénophobes et pour ceux de droite d'affreux laxistes. C'est sans doute que nous tenons la bonne ligne et qu'elle est exigeante et qu'il va falloir, dans ce débat parlementaire, mais y compris dans la mise en œuvre, et le candidat à la mairie de Paris pourra vous en dire un mot parce
qu'on va l'évoquer,
vous connaissez la situation. Absolument. Notamment à la porte de la Chapelle et à la porte d'Aubervilliers. C'est l'humanité, donc c'est accueillir et intégrer au mieux les réfugiés, car c'est notre tradition et personne ne souhaite y revenir, en tout cas pas moi. Et puis c'est la fermeté, et c'est là tout l'enjeu, à savoir que celles et ceux qui ne sont pas éligibles à un titre de séjour puissent être reconduits. On avait une vraie difficulté avec des pays de départ, parce que vous le savez, pour pouvoir reconduire quelqu'un, il faut qu'on ait un laissez-passer consulaire. Peut-être celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais vous ne pouvez pas raccompagner quelqu'un si le pays où vous le raccompagnez ne délivre pas ses laissez-passer consulaires.
Donc on ne rend pas la France un peu moins accueillante sur certains dispositifs,
un peu moins attractive, comme avait dit le président de la République?
Sur quel dispositif?
Je ne sais pas, l'aide médicale d'État par exemple,
En tout cas, moi je suis très attaché à l'aide médicale d'État pour des raisons de santé publique, et je crois que quand on est élu, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, demain, si on me confie la responsabilité d'être maire de Paris, j'ai aussi en charge la santé de ma population. Et donc, moi, je ferai toujours passer la question de la santé publique avant toute autre
Nicolas
considération.
Barré.
Justement, vous évoquez la situation aux portes de Paris, portes de la Chapelle et à d'autres endroits, avec des campements de migrants, des campements informels, des bidonvilles. Qu'est-ce que vous proposez pour régler ce problème et qu'est-ce que vous reprochez surtout à la maire de Paris à ce sujet?
d'avoir laissé non pas une crise sociale se développer aux portes de Paris, mais une crise humanitaire. Moi, j'y ai passé un après-midi cette semaine. Quand j'y vais, je ne fais pas de com. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de réseaux sociaux. Je ne me rends pas comme elle chaque vendredi depuis maintenant 15, 20 ou 30 semaines. La larme à l'œil, montrer la misère humaine. Parce que je crois que quand on est maire de Paris, il faut faire preuve d'un peu de décence. Elle a quelques responsabilités et l'État en a aussi. Et chacun se renvoie la balle.
Vous feriez quoi à sa place ?
Indistinctement depuis 10 ans.
Si vous étiez maire de Paris, vous feriez quoi ?
Pleinement ma responsabilité comme maire de Paris sur deux sujets. Un, lorsqu'un campement s'installe sur le domaine public de la ville, j'exigerai de la préfecture de police que le campement soit immédiatement démantelé. Parce qu'on sait très bien que lorsque vous attendez au-delà de 48 heures, il vous faut une décision de justice. Et que, en fait, c'est le laisser-aller de la maire de Paris qui fait que ces campements se développent. Mais moi, maire de Paris, je demande immédiatement, lorsqu'il y a une occupation du domaine public de la ville, à la préfecture de police, de procéder au démantèlement du camp. Et deuxièmement, elle a une autre responsabilité. Et c'est quelque chose qui choque les Parisiens, quelle que soit leur sensibilité politique. Il y a des enfants à la rue. On a des enfants qui dorment dans les rues de Paris, dans les rues de la plus belle ville du monde, avec leurs parents parfois, de manière isolée, souvent. En tant que maire de Paris, elle a la responsabilité de la protection de l'enfance. Et donc, moi, je vous le dis, il n'y aura pas d'enfant qui ne sera pas mis à l'abri si je suis maire de Paris.
Comment ?
Mais dans, qu'est-ce que vous faites ? Dans quel type d'hébergement ?
Simplement, vous savez combien de milliards d'actifs la ville de Paris et de combien de fonciers la ville de Paris dispose et de combien d'immeubles ?
Mais de combien ?
On parle de 2000 personnes qui campent. On parle peut-être d'une centaine d'enfants. Dans la plus belle ville du monde, on doit pouvoir mettre cette centaine d'enfants à l'abri tous les soirs. Il n'y a pas d'enfants qui dorment dans les rues de Paris. C'est aussi simple que cela. C'est sa double responsabilité. Est-ce qu'elle a la responsabilité
sur le reste ?
Comment
vous réquisitionnez des appartements ?
Je vais au bout du raisonnement parce que je ne veux pas être le procureur facile de Madame Hidalgo.
Oui, parce qu'il y a l'État aussi qui est en jeu.
Démantèlement immédiat lorsqu'occupation du domaine public de la ville. Mise à l'abri des enfants. Ça, c'est sa responsabilité. Et puis se pose derrière la question de l'hébergement d'urgence. Et on voit que ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a une difficulté, que vous avez d'un côté l'État, de l'autre
là,
la ville de
la
Paris
ville,
et le monde associatif.
Pas seulement la ville.
Eh bien moi, je ne suis pas hostile à l'idée que demain, on puisse expérimenter, pour une période de 2 ou 3 ans à Paris, le fait de confier au maire de Paris la responsabilité de l'hébergement d'urgence. Et ça, je suis prêt à le travailler avec les plus hauts responsables de l'État sur cette question, parce que c'est ma responsabilité, comme maire, d'assurer aux riverains, aux personnes qui travaillent, aux migrants, aux gens qui se sont jetés dans des canaux de survie pour échapper souvent à la barbarie et à la torture, des conditions d'accueil qui soient dignes de la République.
Comment ça se passe dans les autres villes ?
Avec le transfert des budgets qui vont avec. Et vous savez, on peut se parler, on n'est pas obligé de s'invectiver par médias interposés, d'aller avec des caméras instrumentaliser la misère du monde le vendredi. Moi, je crois que le rôle du maire de Paris, c'est de mettre autour de la table l'État, les régions, les départements limitrophes, et d'arrêter d'en faire un objet politique. Un peu de décence. C'est le sens de l'intérêt des Parisiens. Les Parisiens attendent cela de nous. Soyons à la hauteur de ce que les Parisiens espèrent.
Les sujets sont graves. On se retrouve dans quelques instants pour en parler.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Benjamin Griveaux sur ces questions cruciales liées à la sécurité, liées à l'immigration. On voit bien que la campagne commence à prendre aussi un petit peu le tournant sur ces sujets-là. Vous nous avez expliqué il y a quelques instants que vous êtes responsable de l'hébergement, notamment des enfants. Vous faites comment ? Vous les séparez des parents ? Vous les mettez dans des écoles spécialisées ?
D'abord, vous avez des enfants qui sont seuls, qui sont sans parents. Ce sont les fameux mineurs dits non accompagnés, dont c'est la responsabilité du département et la ville de Paris.
Allez, et pour ceux qui ne sont pas seuls.
Et vous avez déjà des dispositifs qui existent, mais il faut les renforcer parce qu'il y a encore des enfants qui dorment à la rue. Et quand vous avez des enfants qui sont avec leurs parents, on héberge la famille. C'est ainsi. Ce ne part pas les enfants des parents, il n'est pas question de faire cela. Mais on héberge des enfants. Pas d'enfants qui dorment dans les rues de Paris. Des villes européennes ont réussi ce pari. Il y a une ville qui n'a pas bien réussi, c'est Bruxelles. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a le même enchevêtrement de compétences administratives qu'à Paris. Vous avez la région capitale, vous avez la ville, etc. C'est un méandre administratif dans lequel se perdent les bonnes volontés et toute l'énergie du monde. Vous avez des villes qui ont réglé le problème. Berlin. Mmh. Et Berlin a eu des quantités beaucoup plus importantes de campements installés ou de migrants, eh bien, ils ont réussi à le régler. Pourquoi ? Parce que chacun s'est mis autour de la table, personne n'a accusé personne en permanence et on a trouvé
alors,
des solutions
concrètes.
Alors, ce
qu'on concrètes. Voudrait comprendre, parce qu'on sait que vous y réfléchissez, que vous préparez une série de mesures, peut-être que vous pourriez d'ailleurs nous en parler dès ce matin, notamment concernant, pour rejoindre le débat qui va commencer demain, les questions de l'immigration sur Paris liées avec le problème des migrants. Quelles sont vos propositions ? Quelles sont vos pistes de réflexion à l'heure actuelle ?
J'ai dit, on démantèle les campements qui s'installent immédiatement. Et ça, on le demande à la préfecture de police de le faire. C'est son rôle. Deuxièmement, on met à l'abri les enfants. Troisièmement, la question de l'hébergement d'urgence et donc de la gouvernance de ce système qui ne fonctionne pas bien à Paris. Ça fonctionne bien dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes françaises. Ça ne fonctionne pas à Paris. Pour des raisons historiques, peut-être aussi un peu pour des raisons politiques, disons-le. Eh bien, je crois qu'on doit pouvoir le remettre à plat, expérimenter, la loi nous l'autorise, faire ça pendant 2 à 3 années et voir au bout de 2 ou 3 ans. Est-ce qu'on a réussi à régler le problème ou pas ? Moi, maire de Paris, j'ai du foncier disponible à Paris et même en petite couronne. Moi, maire de Paris, je veux le faire, mais avec les départements autour, parce que l'hypocrisie absolue des dernières années, c'est quoi ? C'est que 95% des personnes migrantes qui arrivent à Paris finissent en banlieue. Et que la maire de Paris, elle est généreuse avec l'argent des autres. Eh bien moi, je vais vous le dire, il n'y a pas de générosité avec l'argent des autres. La ville de Paris doit être exemplaire. Si on n'arrive pas à régler dans la capitale du pays ce sujet si sensible, si on n'est pas à l'avant-garde à Paris sur cette question si difficile, nous n'y arriverons pas. Moi, je suis prêt à le faire et je suis prêt à le faire de manière très expérimentale.
Dès maintenant, vous pourriez rencontrer Hidalgo ce sujet, là ?
Mais elle ne le souhaite pas. Enfin, vous voyez bien qu'elle en fait une instrumentalisation politique de tous les diables. Et donc, je vous le dis, au mois de mars prochain, je suis prêt à mettre immédiatement autour de la table. Et je vais vous dire, d'autres acteurs, les ambassadeurs des pays de départ. Alors, c'est important de pouvoir y travailler aussi avec
méthode,
eux.
Vous nous parlez méthode, Damien
Fleurot. Oui, non, mais vous voulez installer dans ce match pour la bataille des municipales, un duel avec Anne Hidalgo, vous l'avez cité à de nombreuses reprises depuis le début de cette émission. Pourquoi est-ce que vous êtes si certain que vous allez la déloger ? Alors, c'est vrai, les sondages ne sont pas forcément très flatteurs pour elle, mais pas plus pour vous, finalement.
Mon but, ce n'est pas de déloger Anne Hidalgo, vous voyez ? Mon but, c'est de proposer aux Parisiens autre chose, d'avoir une offre différente de ce qui se fait à Paris depuis maintenant de nombreuses années, et au fond, de répondre à une question très simple. Est-ce qu'on vit aujourd'hui à Paris mieux qu'il y a 5 ans ? La réponse est non. Sur beaucoup de sujets, la question du logement, la question de la sécurité, la question de l'espace public et de la qualité de l'espace public, la question des circulations. Tous ces sujets-là sont les sujets du quotidien des Parisiens. C'est ce dont on me parle lorsque je vais à la rencontre des Parisiens. Et donc moi, mon sujet, ce n'est pas de déloger Anne Hidalgo. Je ne fais pas campagne contre la maire de Paris. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment est-ce que j'apporte des solutions concrètes aux problèmes dont les Parisiens me parlent tous les jours.
Et c'est à cela sujet, que je m'attelle depuis des mois. Est-ce que votre sujet, pour l'instant, ce n'est pas plutôt de régler l'épine Cédric Villani, qui, au fond, là, vous a imposé une forme de primaire sauvage que l'on regarde. Vous parlez de concertation, de méthode, se mettre autour de la table. D'abord, il faudrait commencer par quelqu'un de votre propre famille politique. Comment ça va se terminer ?
Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais oui, pour ça, dialoguer, oui, oui. Il faut être deux.
Oui.
Bon, pour l'instant, il n'est pas dans une attitude de dialogue. Il construit la campagne qui est la sienne. Moi, j'ouvre les bras et je tends la main depuis des mois. Je lui ai fait des propositions cet été, concrètes, de copilotage de la campagne sur les grands choix stratégiques et sur les équipes. Je note que beaucoup de personnes rejoignent la démarche qui est la mienne. Et des gens qui ne sont pas issus des mêmes bords politiques, des gens qui viennent de la société civile. Je pense à Carole Diamant qui nous a rejoint, qui préside la Fondation Égalité des Chances sur les questions scolaires. Je pense à Delphine Burki qui vient de la droite, la maire du 9e arrondissement. Et à Mounir Majoubi qui a quitté la campagne de Cédric Villani pour me rejoindre. Et lui qui vient des rangs de gauche. Donc vous voyez, on est en train de le bâtir, ça prend du temps. Je le fais auprès des Parisiens. Et ce travail-là, nous allons le conduire jusqu'à la fin du mois de novembre. Et c'est important de bâtir ce projet avec les Parisiens. Oui. Et puis, est-ce que nous arriverons à nous retrouver ? Je suis convaincu d'une chose. Nous avons plus de convergence que de divergence avec Cédric Villani. Et je suis certain que des problèmes de personnes passeront derrière l'intérêt général des Parisiens. En tout cas, c'est ce à quoi je vais m'employer et m'atteler inlassablement. Pendant les mois qui viennent.
Benjamin Griveaux, la dette de la ville de Paris a augmenté sous la mandature d'Anne Hidalgo. Où est-ce qu'il y a des économies à faire ? Est-ce que c'est du côté, par exemple, de la fonction publique de la ville de Paris ? Il y a 52 000 fonctionnaires. Est-ce qu'il y en a trop ?
Alors, ça n'est pas à vous que je vais apprendre que vous avez 2 budgets à la ville de Paris, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Il y a 55 000 fonctionnaires à la ville de Paris.
C'est trop ?
Il y en a 16 000 dans les organismes associés, ouais. qui sont soit sous statut de fonctionnaire, soit sous statut de contractuel. La question de savoir si c'est trop, c'est quel est le service rendu ? Est-ce que la qualité du service rendu est là et justifie les 7,5 milliards d'euros ouais. du budget de fonctionnement ou pas ? Au fond, c'est la seule question. Est-ce que les Parisiens en ont pour leur
et
argent ?
La réponse ?
Il y a des sujets sur lesquels ça fonctionne bien,
ouais.
et puis il y a des sujets sur lesquels ça fonctionne pas bien.
Alors, ils ne sont pas tous aux 35 heures, par ailleurs.
Ils ne sont pas tous aux 35 heures.
Vous les remettrez aux 35 heures ?
Ça, je vous confirme. Et tous. Par ailleurs, tous.
C'est mais la comment règle. Sur quel
la règle de 1607 heures dans la fonction publique territoriale sera appliquée à Paris. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que je fais la différence. Je ne jetterai pas, jamais, l'opprobre sur celles et ceux qui font que nos rues sont peut-être pas suffisamment propres le matin, mais qui manient le balai à 6 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, et qui, objectivement, n'ont pas des salaires mirobolants. En revanche, qu'on ait 400 personnes au service communication de la ville, qu'il y ait plus de conseillers de cabinet à la ville de Paris que dans tout le gouvernement réuni, qu'on ait 150 directeurs à la ville de Paris, c'est par le haut qu'on fera la réforme. Parce que si les cadres de la fonction publique parisienne ne sont pas exemplaires, vous ne pouvez pas changer la manière dont ça fonctionne. Si les rues de Paris sont insuffisamment propres, ça n'est pas la faute de celles et ceux qui, le matin, font les opérations nettoyage. C'est que le management est défaillant. C'est qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis concrètement.
On aura le temps d'y revenir durant
c'est
toute la campagne,
les élus,
Benjamin Griveaux.
Pardon, s'en sont désintéressés
pardonne,
parce qu'ils considèrent que tout ça est un truc très quotidien et qui n'intéresse pas les gens. C'est la vie des gens. Quand vous êtes maire, vous faites. Être maire, c'est faire. Eh bien, il faudra y
Damien
mettre
Fleurot.
Les mains. Eh bien, regardez, là, on peut faire des économies. Il y a pas mal d'endroits où on peut en faire.
Pour continuer sur
notamment,
la manière.
En investissant plus massivement dans le matériel
pour continuer sur la manière dont la campagne se prépare.
Plus propre.
Benjamin Griveaux, la mairie de Paris, ce sont aussi 17 élections. Il faut faire des alliances. Vous en avez fait avec, par exemple, l'UDI, peut-être bientôt avec le MoDem, je ne sais pas, Marielle de Sarnez. On vous annonce aussi un meeting de Gaspard Ganzer.
Je ne crois pas que c'est un meeting, je crois que c'est une bière qu'on va partager.
Ah, donc vous allez faire la fête
avec
de Gaspard Ganzer, c'est ça ?
Parce que je fais ça à un micro, je vais me faire appeler Gustave. On fera la
préfigure,
la
ça préfigure le rassemblement. C'est
le rôle d'un maire, c'est de rassembler des personnes de bonne volonté. Et je vais vous dire ma conviction depuis le premier jour, c'est que rien ne résiste aux gens de bonne volonté. Et que nous pourrons soulever des montagnes. On me dit
donc,
Paris n'est pas
réformable.
Phrase, là
Paris n'est est ingouvernable. Paris n'est pas réformable. Les majorités sont impossibles à constituer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Évidemment que lorsque vous rassemblez sur un projet, avant de savoir les alliances de personnes, et c'est le travail qui est engagé, le MoDem est en plein travail sur le projet. C'est là-dessus que nous allons discuter. C'est là-dessus aussi qu'on discute avec Pierre-Yves Bournazel, parce qu'on a des convergences sur le fond à l'évidence, et qu'il y a des convergences sur le fond avec Cédric Villani dans l'approche. Qui peut être contre une approche scientifique de l'écologie ? Ça, c'est frappé du bon sens. Je suis certain d'une chose, nous aurons des alliances sur le fond, sur le projet. Et ensuite,
mais on dit
qu'on
était candidat de la droite également à Paris. Est-ce que vous pensez que c'est avec une partie de la droite qu'il faut embarquer, que vous pourriez donc rassembler les Parisiens ?
Mais avec les deux, mon capitaine. Parce que j'en ai assez qu'on divise Paris. J'en ai assez que l'Est s'oppose à l'Ouest. Que le maire de Paris soit le maire de la moitié des Parisiens. Le maire de Paris, il n'est pas le maire de simplement celles et ceux qui ont voté pour lui. Il est le maire de tous les arrondissements de Paris, des quartiers populaires qui ont été abandonnés par une majorité dite de gauche. Quand on a les problèmes de logement, quand on a les problèmes d'école, quand on ne règle pas les problèmes de transport, quand on a les problèmes d'insalubrité, est-ce qu'on est un maire dit de gauche ? Non, moi je veux être le maire de tous les Parisiens, pas de ceux de gauche ou de droite, de ceux des quartiers populaires comme des quartiers favorisés, parce que c'est aussi cela l'esprit de Paris.
Exactement. Et c'est également le style. On va voir effectivement avec quel style vous voulez être maire de tous les Parisiens. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on se retrouve pour cette dernière partie du grand rendez-vous avec Benjamin Griveaux qui aussi a ouvert son acte 2 à sa manière. Alors, on a entendu le président de la République en pleine crise des Gilets jaunes reconnaître à plusieurs reprises des erreurs pour avoir donné notamment le sentiment d'être en surplomb, d'être arrogant. Vous dites la même chose pour vous ?
On apprend beaucoup de deux années passées au gouvernement. Il y a eu cette conquête improbable qui a défié les lois de la politique, où en l'espace d'une année, un mouvement lancé dans une salle à Amiens, où on était quelques centaines, fait qu'un président de la République est élu, qu'une nouvelle majorité arrive au Parlement, et où on peut avoir le sentiment, dans ce temps-là, que, au fond, rien ne vous résiste, et que vous pouvez transformer le pays au pas de charge. Je crois que c'est la leçon qu'on retire. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retiré de cette expérience au gouvernement, qui, je crois, est utile lorsqu'on veut être maire de Paris, bien de peut-être prendre le temps
parce qu'effectivement, de l'écoute. Effectivement, on n'a pas entendu uniquement quand vous étiez au gouvernement. Vous avez déclaré aux Parisiens récemment « J'ai mes défauts, je les connais, je suis direct. C'est vrai, il m'arrive de dire des choses un peu cash. C'est vrai, mais je crois que c'est ce qu'on attend également d'un futur maire de Paris. » Donc, c'est un peu le style que vous allez poser. C'est un maire qui n'a pas peur de dire les choses au risque de cliver. Vous dites « J'ai changé » comme tant d'autres.
Non. Parce qu'en fait, je le fais avec mes tripes. Et parce que si on fait de la politique sans y mettre ses tripes, son courage, son envie, d'abord on en fait pour de mauvaises raisons. Sans doute on y reste trop longtemps. Et moi j'ai dit que, quels que soient les mandats dans lesquels je m'engagerai, j'en ferai deux. Et qu'après j'arrêterai. Parce que je crois que quand on y met l'énergie, l'envie, eh bien, il faut le faire pour un temps déterminé. Oui. Moi j'ai une raison pour laquelle je me suis engagé en politique et pour laquelle je me suis réengagé. J'avais quitté la vie politique. C'est la bataille pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas un enfant de la République qui doit rester sur le bord du chemin. Et Paris n'échappe pas à ça.
C'est ce qui vous fait avez avancer C'est vraiment c'est votre, la raison de votre engagement?
Peut-être parce que je suis père. Je l'étais pour une troisième fois il y a quelques mois encore. Et que j'ai grandi dans une petite ville de province. Mes parents ne faisaient pas de politique. Je viens d'un milieu bourgeois. Mais mes parents ne faisaient pas de politique. Et les gamins avec qui j'étais à l'école, ils n'étaient pas moins intelligents, moins bons élèves que moi. Mais ils n'ont pas eu cette chance-là. Et c'est ça qui est insupportable. Et je vais vous dire, c'est sans doute cela qui fait que la société française a été bloquée pendant si longtemps. C'est que la République n'offre pas à chaque enfant sa chance et que, comme maire de Paris, je peux réduire cette fracture-là. C'est ce que Jacques Chirac appelait les fractures sociales. La ville de Paris n'échappe pas à ces fractures.
Mais Benjamin Griveaux, vous dites faire de la politique avec vos tripes, vous n'êtes pas le seul à le dire. Et avec quelle suite dans les idées? Puisque vous candidatez à Paris pour un mandat de député, puis finalement vous occupez des fonctions au gouvernement, puis ensuite vous redevenez député, enfin vous quittez le gouvernement pour être maire de Paris. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, si je suis élu maire de Paris, j'irai au bout de ce mandat et je n'aspirerai pas à d'autres fonctions?
Je l'ai déjà dit, j'irai au bout de ce mandat. Et si les Parisiens me font confiance une deuxième fois, j'en ferai un deuxième et après j'arrêterai la vie politique. Je crois que je ne peux pas être plus clair que cela. D'abord parce que, je vous le dis, quand on s'engage dans quelque chose, je ne le fais pas à moitié, ça m'a souvent été reproché, et que, je m'en excuse, vous savez, si j'ai eu des mots durs, ça n'est jamais pour blesser. Jamais. Et parce que, quand on est parfois engagé...
C'est pourquoi c'est votre sens de l'humour qui vous joue des tours ?
Il m'arrive parfois d'avoir un sens de l'humour un peu décalé dans des conversations privées, mais vous savez, si on fait ce choix-là de vie, parce que c'est un choix de vie... On le fait avec ses qualités, ses défauts, et je ne crois pas que la détermination qui est la mienne soit un défaut lorsqu'on veut être maire de Paris. Je pense qu'au contraire, c'est aussi un signe pour les Parisiens que j'y mettrai du courage, de la ténacité et toute ma détermination.
Rapidement sur ce sujet, vous dites au fond, aimez plus mon projet que moi. Ou aimez moi aussi.
Je vais vous dire, aimez mon équipe. Parce que celui qui pense qu'il peut être maire de Paris seul, celui-là est déjà condamné à échouer.
Nicolas Barré.
Alors, sur le projet, pour être terre à terre, Anne Hidalgo fait tout pour réduire la place de la voiture dans Paris. Les sondages, d'ailleurs, montrent que les Parisiens sont plutôt pour. C'est quoi votre ligne sur le sujet? C'est la même chose? Il faut limiter l'accès
à Paris?
Moi,
c'est assez simple. Je veux réduire la pollution à Paris. Mmh. Et si ça passe par une baisse du nombre de voitures, tant mieux. Mais il faut reposer la question dans le bon sens. Parce que si demain, ce sont des voitures électriques... Mmh. Est-ce qu'on est contre les voitures électriques? Je pousse même parfois à la boutade, vous allez voir, j'ai encore un peu le sens de l'humour. Si les voitures sont à pédales, est-ce qu'on va les interdire demain? Vous voyez ce que je veux vous dire? Moi, mon sujet, c'est je veux baisser le niveau de pollution. Je veux améliorer la qualité de l'air respiré par nos enfants, par les personnes âgées qui sont des personnes fragiles. Ouais. On a 6500 morts liés à des complications respiratoires à Paris en petite couronne. C'est deux fois plus que les tués sur la route. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour améliorer la qualité de l'air respiré par nos enfants et par les personnes âgées depuis 5 ans? Pas grand-chose.
Est-ce qu'il faut mettre des péages pour rentrer dans Paris comme dans d'autres grandes villes?
Mais si c'est mettre des péages pour réserver la pollution à celles et ceux qui vivent autour de Paris, ça n'est pas la bonne solution. Vous savez, il faut arrêter de penser que Paris... ne se réfléchit que sur lui-même, enfermé dans son périphérique. C'était formidable. Hier, on a fermé un quart du périphérique pour la nuit blanche. Est-ce qu'on a pensé aux personnes qui l'utilisent et qui sont beaucoup plus franciliens que parisiens?
C'est une
voirie parisienne, le périphérique. Enfin, on voit bien que c'est un usage qui n'est pas que parisien. Quand est-ce que Paris va enfin s'asseoir à la table des discussions avec les maires, avec les présidents de département autour? On a les mêmes problèmes. Nos habitants ont les mêmes difficultés, les mêmes, de logement, de déplacement entre le domicile et le travail, de garde d'enfants. On a les mêmes problèmes. Il faut arrêter de tout faire en se regardant le nombril, parce qu'on réglera les problèmes de personne. Et donc le péage, ça repousse le problème aux frontières de Paris. Il y en a qui ont cru que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait aux frontières du pays. Ouais. J'ai peur que le nuage de particules fines passe le périphérique.
Vous avez annoncé un moratoire sur les travaux. Faut arrêter de transformer Paris ?
Non. Mais ce que j'ai annoncé, c'est quoi ? C'est que si je suis maire de Paris, élu au mois de mars prochain, pendant 6 mois, je n'ouvre aucun nouveau chantier. On termine les chantiers en cours, mais il n'y aura pas de nouveaux chantiers pendant 6 mois. Pourquoi ? Parce que pendant ces 6 mois, je vais mettre autour de la table les concessionnaires, les opérateurs de la ville, les riverains, les commerçants, pour avoir un calendrier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est insupportable, au-delà du fait que la ville soit sale, c'est que vous avez des gens qui viennent vous mettre des travaux, qui ne vous disent pas à quoi ça sert, combien de temps ça va durer, ça peut durer 2 semaines ou 2 mois, vous n'en avez aucune idée, et qu'on arrive, exploit faisant, à ouvrir 3 fois la même rue, la même année. 3 fois, une fois pour le gaz, une fois pour l'eau, une fois pour le chauffage urbain, une fois pour la fibre. Et donc on enquiquine les gens 3 fois de suite. Écologiquement, c'est un désastre, vous rebitumez 3 fois, vous mettez des engins de chantier à 3 reprises qui ne roulent pas vraiment au colza, et puis en plus, vous provoquez des embouteillages. Franchement, c'est un désastre écologique, cette gestion des travaux. On va remettre du bon sens, du phasage, à nouveau, les mains dans le cambouis. Être maire, c'est faire. Il faut s'intéresser à ces petites
alors,
choses.
Justement, qu'est-ce qu'on fait, colère,
c'est important. Qu'est-ce qu'on fait sur la crise du logement, notamment à Paris ? Vous en aviez parlé en disant que vous n'aviez pas les moyens d'être propriétaire dans la capitale. Cédric Villani veut surtaxer les résidences secondaires jusqu'à 100%. Bonne idée ?
Alors moi, je n'étais pas un fan de la taxe à 75%. La taxe à 100%, j'avoue que j'ai un doute sur l'utilité pour la majoration sur les résidences secondaires. C'est quelques centaines d'euros, ça ne changera rien. C'est comme la taxe sur les logements vacants. Vous pouvez augmenter la taxe sur les logements vacants, c'est ce qu'a fait la maire de Paris.
Interdire.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est efficace ? Parce qu'après tout, on peut regarder. Mais on a plus de logements vacants qu'avant. Moi, je vais vous dire, j'invite chacune et chacun, dans cette élection, à sortir d'un problème bien français qui fait que, quand on a une situation difficile, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente un impôt ou une taxe. Ça n'a jamais réglé
les problèmes. Interdire Airbnb dans le centre
donc,
de Paris ?
Je ne suis pas
c'est
pour
ce que propose Anne Hidalgo.
Oui, je sais. Propose l'interdiction. Je pense aux petits propriétaires parisiens qui mettent leur logement sur Airbnb, leur résidence principale, pas aux spéculateurs. À nouveau, on fait la même règle pour tout le monde. Celui qui a un petit studio qui loue, qui permet de gagner 200 ou 300 euros par mois, ça lui fait 4 ou 5 000 euros par an. Ça paye les vacances, ça paye les plaisirs. Celui-là, on lui dit stop. Ce sont les classes moyennes. C'est celles dont je veux qu'elles restent vivre à Paris. On lui interdit cela ?
Non. Les classes moyennes.
En revanche,
on a compris, on va
pour
en parler
celles et
également
ceux qui
ont
fait une industrie et un commerce, il faut évidemment être beaucoup plus dur.
Benjamin
Mais vous voyez, donc un les slogans, les gadgets de campagne, ça suffit. Il faut être dans le réel.
Question de Nicolas Barré.
C'est pas que des gadgets. La maire de Paris dit qu'elle va investir 3 milliards d'euros pour le logement social notamment.
Elle l'a fait.
A investi 3 milliards d'euros pour le logement social. On est à 22%, je crois, de logement social. C'est pas un gadget, c'est une réalité.
Et c'est très bien d'avoir du logement social, mais je vais vous dire, Nicolas Barré, on a un problème dans Paris. C'est qu'on a du logement social désormais, on a le marché libre, et entre les deux, on n'a rien. Il n'y a pas de structuration du marché du logement intermédiaire. Et donc, les classes moyennes quittent Paris. Quand vous avez un enfant, vous campez. Quand vous avez un deuxième enfant, vous décampez. Donc, ça ne peut plus fonctionner
et
comme ça. Une ville où il n'y a pas... Vous structurez le marché du logement intermédiaire. Les 500 millions d'euros par an...
Ça
veut dire que les 500 millions d'euros par an investis dans le logement social, vous en réservez une part pour le logement intermédiaire. Ça veut dire concrètement que quand aujourd'hui, vous faites des transformations d'appartements, vous ne passez pas du F3 au F2 parce que vous chassez les familles en faisant cela. Moi, je veux qu'un fonctionnaire de police, un médecin, une infirmière à la PHP aux hôpitaux de Paris, un professeur, un cadre moyen, ils puissent vivre à Paris. C'est pour cela que je vais me battre, parce que sans classe moyenne,
alors,
Paris mourra.
Pour vivre,
je ne m'y
il faudra
pas.
Également.
Je ne veux pas faire de Paris une ville musée réservée aux touristes.
On y reviendra bien entendu. Mais pour vivre, il faut également circuler. Il y a un préavis de grève illimité à la RATP. Ce sera la dernière question. Il vous reste une minute. Paris donc, est toujours une cible quand il y a évidemment des mouvements sociaux. Ça peut perturber la campagne, tout cet automne social ?
Je vais vous dire, j'espère que d'abord, ce sera limité et que le service minimum
pour
pourra être assuré.
Pour l'instant, le préavis est limité, oui.
Que le service minimum qui existe, qui est inscrit dans les textes, pourra être respecté parce que ceux que ça pénalise sont celles et ceux qui travaillent, qui ont besoin de ces transports en commun pour se rendre à leur travail, pour aller chez leurs clients, pour faire vivre la ville.
Est-ce
Moi, je veux une ville où on travaille.
Campagne.
Donc, est-ce que ça va perturber la campagne ? J'en ai pas la moindre idée. On est à plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Ce dont je suis certain, c'est que les Parisiens savent faire la différence entre les sujets nationaux et les sujets qui vont les concerner au premier chef dans leur quotidien. J'ai eu l'occasion d'en dire quelques mots. Merci de m'avoir invité. Je reviendrai avec grand plaisir si vous avez l'occasion de me réinviter en début d'année prochaine, où on pourra détailler les propositions que nous ferons aux Parisiens.
Et voilà, il a fait la conclusion, il s'est tout faire. Merci beaucoup, Benjamin Griveaux. À très bientôt.
Merci à vous.